Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'oraison de la messe d'aujourd'hui, l'Église nous fait demander la dévotion. Fac nos tibi semper et devotam gerere voluntatem et majestati tue sincero corde servire. Faites, Seigneur, que toujours notre volonté se montre dévote envers vous et qu'elle serve votre majesté avec un cœur sincère. Qu'est-ce que c'est que cette volonté dévote, ce service de Dieu empressé que l'Église nous fait ainsi demander ? Le mot dévotion n'a pas bonne presse. Dans son sens galvaudé, il évoque une forme de spiritualité sentimentale, sucrée, factice, surchargée de pratiques de piété douteuses et d'innombrables petites prières, à la limite de la superstition. Est-ce cela que l'Église nous fait demander ? Évidemment non. La dévotion au sens où l'entendent la théologie et la tradition catholique n'a rien à voir avec cette caricature. C'est une disposition très noble, très belle et absolument nécessaire à qui veut être vraiment catholique, avoir une vraie vie intérieure, tendre à la sainteté. Saint Thomas lui a consacré une question entière dans sa somme théologique, dans son traité sur la religion. Et même il commence ce traité par cette question de la dévotion. Parce que la dévotion, telle qu'il l'entend, telle que l'Église l'entend, est en quelque sorte l'âme de la religion, sa vie, sa sève, son acte principal, en ce sens que tous les actes qui suivent en dépendent. C'est la dévotion qui fait que le culte que nous rendons à Dieu lui est agréable et que ce culte est fructueux pour nos âmes, source de sainteté. Sans dévotion, ce culte serait purement machinal. Car la religion a deux sortes d'actes, des actes extérieurs, sensibles, visibles, les cérémonies, des gestes, des paroles, des signes, tout ça nous le voyons quand nous assistons à la messe, ou même quand nous prions, nous nous mettons à genoux, nous disons des paroles, quand nous récitons le chapelet, etc. Donc ça, ce sont les actes extérieurs. Et puis des actes intérieurs qui viennent du cœur. Or, entre ces deux sortes d'actes, qui sont tous deux importants, notez-le bien, parce que l'homme est fait de corps et d'âme. L'homme n'a pas simplement une âme, il a aussi un corps. Donc il faut que le corps participe à sa vie de prière. Donc ces deux sortes d'actes sont importants. Mais évidemment, entre ces deux sortes d'actes, ce sont les actes intérieurs qui sont les actes principaux. Ce sont eux qui inspirent les actes extérieurs, qui les vivifient, tout comme le corps est vivifié par l'âme. Ce sont les actes intérieurs qui donnent aux actes extérieurs leur valeur. Parce que la religion est avant tout spirituelle. Notre Seigneur le dit à la Samaritaine dans l'évangile de Saint Jean. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors même si ces actes se traduisent aussi par des actes matériels, par des actes extérieurs, il faut essentiellement que notre religion procède de l'intérieur, de la dévotion précisément. Parce que si notre religion se ramène à des actes purement extérieurs, à des pratiques purement extérieures, accomplies mécaniquement, sans amour, sans dévotion, par pur formalisme, non seulement cette religion n'honore pas Dieu, mais même elle le déshonore. C'est une sorte de mensonge, une marque de mépris même envers la majesté divine, une hypocrisie. Et c'est justement le reproche que Dieu adressait aux prêtres infidèles de l'Ancien Testament. On lit ça dans le prophète Malachie. « Le fils honore son père et le serviteur son seigneur. Si donc je suis votre père, dit Dieu, où est l'honneur qui m'est dû ? Et si je suis votre Seigneur, où est la crainte qui m'est due ? C'est à vous que je m'adresse, aux prêtres qui méprisaient mon nom. » Et le texte continue en montrant que ces prêtres infidèles offraient des sacrifices souillés dans lesquels ils ne mettaient absolument pas leur cœur. De la même manière, notre Seigneur, dans le Nouveau Testament, a adressé le même reproche aux pharisiens. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » il ne faut pas que ce reproche puisse nous être adressé. Vous vous souvenez les invectives que notre Seigneur lance contre les pharisiens dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 23e. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, donc des actes extérieurs réclamés par la loi de Moïse, après avoir négligé les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi. C'est ceci qu'il fallait pratiquer sans négliger cela. Guides aveugles qui filtraient le moucheron et avalaient le chameau. » Et ça continue pendant plusieurs versets. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblaient à des sépulcres blanchis. Au dehors, ils ont belle apparence. Ils sont tout peints bien en blanc, à la chaux. Mais au-dedans, ils sont pleins d'ossements, de mort et de pourriture. Vous de même, au dehors, vous offrez aux yeux des hommes l'apparence de juste, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Donc les actes extérieurs de la religion, qui encore une fois sont requis, sont nécessaires, doivent être l'expression, la manifestation de la religion intérieure, et c'est-à-dire de la dévotion. Alors qu'est-ce que c'est que la dévotion ? Dans le mot dévotion, il y a le mot dévouer, se dévouer, c'est vos verrez. Les dévots, ce sont ceux qui se dévouent à Dieu pour le servir, pour lui être assujettis. Saint Thomas définit ainsi la dévotion, c'est la volonté de se livrer, c'est tradendi, se livrer promptement à tout ce qui regarde le service de Dieu. C'est l'offrande totale de soi-même, l'hommage conscient, délibéré de tout notre être à Dieu pour le servir, parce que Dieu est notre souverain, il est notre fin suprême. Ça n'est donc pas un simple attrait pour le culte divin. Ce n'est pas ça la dévotion, ce n'est pas le fait d'apprécier l'odeur d'encens, ou les beaux cierges, ou les fleurs, ou les belles églises, ou les beaux ornements, tout ça est très bien. Mais la dévotion, c'est un acte de la volonté, analogue à l'acte de charité qui oriente toute notre vie et toute notre activité vers Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Nous connaissons ce précepte. Sauf que ici, cette intention première de dilection est appliquée au service de Dieu, à la volonté de lui rendre hommage. Mais c'est tout à fait proche de la charité. Tout ça procède finalement d'un même mouvement. Et saint Thomas nous précise que cette volonté doit être prompte. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire nos prières à toute vitesse. Ça veut dire bien décidé. Il faut que ce soit une volonté décidée, ferme. Il faut être prêt, se tenir sa volonté prête à agir pour Dieu, dans une attente qui n'est pas passive, mais active. Alors saint Thomas se pose la question de la cause de la dévotion, et cette question est très importante, et ce qu'il dit, ce qu'il explique à cet endroit, est très éclairant pour nous. Quelle est la cause de la dévotion ? Comment est-ce que cette dévotion va naître dans notre âme et augmenter, se propager ? La cause extérieure et principale, c'est Dieu lui-même. Ça se comprend facilement. C'est Dieu qui nous rend religieux. La dévotion, c'est une grâce. C'est pour ça qu'il faut la demander, d'ailleurs, dans la prière. C'est par la prière, en demandant cette grâce de la dévotion, que nous l'obtiendrons. C'est Dieu qui la donne. Ça vient de lui. Mais la cause intérieure, si on considère les choses maintenant de notre côté à nous, d'où vient que nous sommes dévots ou que nous ne le sommes pas, et comment augmenter cette dévotion en nous ? Eh bien, répond saint Thomas, puisque c'est un acte de la volonté, il faut se demander du côté de notre volonté ce qui est au principe de cet élan empressé vers Dieu. Et il faut répondre, évidemment, c'est la charité. La charité, c'est la source immédiate de cette remise qu'on fait de soi-même à Dieu, tout comme elle est la source de tous nos mouvements et de toutes nos œuvres surnaturelles. Si nous n'aimons pas Dieu, si nous ne le préférons pas à tout autre bien, si nous ne sommes pas prêts à tout sacrifier pour lui, c'est en vain que nos lèvres prononcent des prières, que nos mains s'élèvent vers le ciel, que nous assistons à la messe, que nous offrons des sacrifices. Tout ça est vide de sens. Nous agissons comme des perroquets. On dit des mots, On répète des phrases, mais le cœur n'y est pas. C'est exactement ce que nous avons dit tout à l'heure. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Vous noterez d'ailleurs que dans le mot latin « dilectio »,« diligere », le mot qui est employé pour désigner la charité. La charité est un amour, c'est une dilection. Eh bien, dans ce mot « dilectio », il y a le mot « eligere », choisir. « Diligere », c'est « eligere », c'est choisir. L'amour que Dieu attend de nous est un amour d'élection. Parmi tout ce qui se présente à notre volonté, tout ce qu'elle pourrait choisir, le bien comme le mal, elle en a la possibilité. La volonté choisit Dieu de préférence à tout le reste. C'est un amour, c'est une volonté, un amour d'élection. Donc voilà du côté de la volonté. Mais la volonté, pour choisir précisément, a besoin d'être éclairée par l'intelligence. L'acte de la volonté procède toujours d'une considération de l'intelligence. Si la volonté se porte vers un bien, c'est parce que ce bien lui est connu, parce qu'il a été perçu par l'intelligence. Alors c'est pour cela, continue saint Thomas, que la cause intérieure de la dévotion est nécessairement la méditation ou la contemplation. Pour autant que cette méditation fait naître en nous cette conviction qu'on doit se livrer au service divin. Voyez l'importance de la méditation, le fait de prendre un peu de temps dans nos vies et même chaque jour pour lire, pour se former, pour lire tous les textes qui relèvent de notre religion, pour lire la Sainte Écriture, pour méditer, pour réfléchir à tout ça, pour contempler toutes ces grandes vérités. Il faut connaître, on n'aime que ce qu'on connaît. Si nous ne connaissons pas notre religion, si nous ne méditons pas les textes, les cérémonies de la messe, si nous n'en comprenons pas le sens, nous ne pourrons jamais les goûter vraiment. Nous n'aurons jamais l'amour de ces réalités-là, et au-delà de ces réalités, l'amour de Dieu. Nous sommes comme des perroquets, nous répétons simplement des prières ou des formules que nous ne comprenons pas vraiment, ou que nous ne goûtons pas en tout cas. Alors, que devons-nous plus spécialement méditer? C'est toujours saint Thomas qui se pose cette question. Il faut méditer pour que la volonté puisse se porter ainsi vers Dieu. Mais que méditer? Et alors, il va signaler spécialement deux sortes de considérations, qui sont capables de faire naître en nous la dévotion. D'abord, des considérations qui sont prises de la bonté de Dieu et de ses bienfaits. Il faut méditer sur la bonté de Dieu, sa miséricorde, sa puissance, sa présence dans toutes choses et dans notre âme. Toutes ces considérations éveillent en nous l'amour qui est la cause prochaine de la dévotion. Il faut connaître Dieu. Et puis à côté de ces considérations sur Dieu, saint Thomas indique un autre sujet de méditation qui cette fois est tiré de nous-mêmes et de la vue de nos déficiences. Et cette méditation de nos faiblesses, de nos misères, de nos déficiences, nous porte aussi, c'est paradoxal, mais c'est vrai, nous porte à la dévotion parce qu'elle nous pousse à nous appuyer sur Dieu. Elle nous fait comprendre que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, que par nous-mêmes, nous sommes faibles, nous sommes de pauvres pécheurs. Et donc, cette méditation élimine l'obstacle de la présomption qui, en nous faisant compter sur nos propres forces, nous empêche de nous soumettre à Dieu et de lui être tout entier assujetti. Et c'est très vrai cela aussi. Et la considération de la grandeur de Dieu, de la majesté de Dieu et la considération de nos pauvres misères, de nos petitesses, de nos limites. Et dans ces deux considérations, vous retrouvez les deux grandes connaissances fondamentales que saint Augustin recommande aux âmes, à l'âme qui veut se sanctifier, qui veut servir Dieu. Il faut que cette âme connaisse Dieu et qu'elle se connaisse. Noverim te, noverim me. La connaissance de Dieu, la connaissance de soi. Tout est là. Alors nous pourrions en rester là. Tout est dit. Et pourtant, il y a une objection qui se présente et que saint Thomas ne manque pas de présenter, de dire. Quelle est cette objection? Eh bien, c'est que si la contemplation est vraiment la cause propre et essentielle de la dévotion, alors il faudrait que les objets de la plus haute contemplation éveillent davantage en nous la dévotion. Normalement, c'est en contemplant les choses les plus élevées que nous serons les plus dévots. C'est logique. Or, pratiquement, de fait, nous en faisons l'expérience, c'est le contraire qui se passe. Souvent, la dévotion est excitée par la considération plutôt de l'humanité de notre Seigneur, de sa passion notamment, et de tous les mystères de son humanité, plutôt que par la vue de la grandeur divine. La grandeur divine est quelque chose qui nous dépasse infiniment, et ce n'est pas tellement ça qui nous porte vers Dieu, paradoxalement. Alors la réponse que fait saint Thomas à cette objection est très éclairante. En fait, il distingue. Il montre que si effectivement en soi, c'est la méditation de la grandeur de Dieu, de sa majesté, qui doit éveiller en nous l'amour et la dévotion, à cause de notre faiblesse, à cause de notre statut humain, de notre mode humain de connaître, eh bien pour nous, ça n'est pas le cas. Nous avons besoin d'être comme conduits par la main. Le terme employé par saint Thomas, c'est « manu duxio », un peu comme une maman qui conduit son enfant. L'enfant est trop petit pour se conduire tout seul, il a besoin de la main de sa mère. Eh bien, de la même manière, notre intelligence a besoin de la main du bon Dieu, ou plus exactement de la main de notre Seigneur, pour être entraînée, emmenée jusqu'à Dieu lui-même. C'est par l'intermédiaire de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons atteindre sa divinité. Nous n'atteignons pas les réalités intelligibles, et a fortiori les réalités surnaturelles les plus élevées, sans l'aide des réalités sensibles qui sont adaptées à notre connaissance. C'est ainsi que nous connaissons. C'est le mode humain de connaître. Et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur, l'humanité de notre Seigneur, c'est ce qui est dit dans la préface de Noël que vous connaissez, « Connaissant Dieu sous cette forme visible, nous sommes ravis par lui à l'amour des réalités invisibles. » En connaissant notre Seigneur qui s'est fait visible pour nous, qui s'est fait homme, nous sommes ravis à l'amour de sa divinité. En regardant l'humanité du Christ, et spécialement sa passion, nous avons le moyen par excellence d'exciter notre dévotion. C'est comme un guide qui nous prend par la main et qui nous élève. Dieu s'est fait homme pour nous élever jusqu'à sa divinité, la condescendance de Dieu. Et saint Augustin raconte dans sa vie, dans ses confessions, tous les efforts qu'il faisait avant sa conversion pour élever son esprit jusqu'à Dieu. C'était un grand esprit. Donc il saisissait qu'effectivement Dieu était quelque chose de très élevé, mais en même temps que seul Dieu pouvait combler l'âme humaine. Alors sans cesse il cherchait à monter plus haut, à se dégager de toute image pour parvenir à la vérité immuable. Et puis parfois, comme dans un éclair, il entrevoyait quelque chose de la lumière de Dieu. Mais il ne pouvait y arrêter la pointe de son esprit. Aussitôt, tout ça retombait, sans qu'il soit rassasié de la splendeur entrevue. Et il se serait épuisé ainsi en des efforts stériles s'il n'avait enfin trouvé le médiateur, notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous pour mettre à notre portée, pour accommoder à nos faiblesses le Dieu infini. Saint Augustin s'est converti et il a connu notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, c'est ce que saint Paul dit. Il dit que en notre Seigneur réside corporellement la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, la plénitude de la divinité, s'est faite perceptible à nos sens. Dieu a pris un corps, une apparence sensible, pour que nous puissions être élevés jusqu'à sa divinité. Et c'est pour ça que notre Seigneur est la voie, la vérité et la vie, la voie qui nous conduit jusqu'à la vérité et à la vie. Alors, pour terminer, disons juste, et c'est ce par quoi saint Thomas termine cette question sur la dévotion, que le fruit que cette dévotion va engendrer dans notre âme, c'est un merveilleux épanouissement de notre âme, une joie profonde. Le service de Dieu dilate l'âme, la rend heureuse, parce qu'elle a été créée par Dieu pour cela précisément. Et là encore, l'analyse de saint Thomas est très fine et très consolante. Parce que tant que nous sommes ici-bas, cette joie ne peut pas être parfaite. Cette joie qui est le fruit d'une vraie dévotion, elle sera toujours tempérée. Parce que quand nous avons goûté Dieu, nous sommes rassasiés, satisfaits. Mais en même temps, nous ne le possédons pas parfaitement ici-bas. Nous n'avons pas encore la fruition parfaite de Dieu. Nous sommes encore dans cette vallée de larmes qu'est le monde et qui nous rappelle nos misères. Alors nous sommes comme le cerf du psaume « Siti vit anima mea ad eum vivum » ainsi coûte cher vous, comme le cerf qui aspire après les eaux vives, notre âme aspire après le ciel. Elle aspire à une vie parfaite, à la vie du ciel, où la contemplation, cette fois, sera sans ombre, dans la pleine lumière. Donc, il y a une certaine tristesse, une certaine nostalgie qui accompagne cette joie. Mais c'est une bonne tristesse. C'est la tristesse qui nous rappelle sans cesse que Dieu est beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut imaginer et qui nous tire, en quelque sorte, vers le haut. Demandons à notre Seigneur et à la Vierge Marie cette vraie dévotion si importante pour notre vie chrétienne. Dans les litanies de la Sainte Vierge, on dit à Notre-Dame qu'elle est « vas insigne devotionis », le vase insigne de la dévotion, un vase, un récipient, un réceptacle, un signe éminent de dévotion. C'est en elle qu'on trouve le parfait modèle de la dévotion chrétienne. Demandons-lui qu'elle nous l'obtienne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.